Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire, créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks, réalisé en partenariat avec Citeo, Sarah, directrice de la communication de Circulaire, et moi avons eu le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Michel, Innovation Manager chez Citeo, et Frédéric Villemar, cofondateur de TerraVox, une start-up de l'économie sociale et solidaire dont la mission est d'aider les collectivités à transformer les déchets en ressources pour mieux vivre la ville. 1,2 kg. C'est la quantité de déchets que les Français jettent chaque jour selon Eurostat. Mais derrière ce terme plutôt péjoratif de déchets se cachent en réalité des ressources que nous ne soupçonnons pas. TerraVox, ou autrement dit la voix de la Terre, nous rappelle l'importance de prendre la parole pour sensibiliser sur la gestion des déchets, pour lever le tabou sur ce sujet qui nous concerne tous et qui nous met face à notre responsabilité individuelle. Lauréat du Circular Challenge en 2022, le programme d'accompagnement créé par Citeo, Frédéric nous raconte avec Anne-Sophie comment Citeo a permis à TerraVox d'accélérer son développement pour mener à bien son ambition de mettre l'économie circulaire au service du bien-être en ville. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis avec Sarah de vous accueillir Anne-Sophie et Frédéric dans ce nouvel épisode des Circular Talks réalisé en partenariat avec Citeo. Cet épisode est le quatrième et le dernier d'une série de quatre épisodes dédiés au Circular Challenge, un programme d'accélération de start-up de l'économie circulaire que vous avez initié il y a 6 ans, Anne-Sophie. Dans cette série, nous mettons en avant les entrepreneurs membres du programme, parmi lesquels Frédéric, lauréat 2022 avec la start-up TerraVox. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sarah.
Bonjour Alexia, bonjour à tous les deux.
Frédéric, je m'adresse à toi pour commencer. En préparant cet épisode, tu nous as dit une phrase qui nous a particulièrement marqué avec Sarah. Cette phrase, c'est « Le déchet est un moyen de fédérer et de générer du lien social au sein d'un lieu de vie ». Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette phrase? Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi? Et tu pourras en profiter aussi pour nous rappeler la mission de TerraVox.
Oui, tout à fait. Alors, le déchet...
Tu te souviens de nous avoir dit cette phrase?
Je me souviens maintenant que tu le dis, oui. Non, j'aime bien effectivement dire que le déchet est un prétexte pour créer du lien dès lors qu'on le regarde différemment. Et chez TerraVox, effectivement, on fait la promotion des solutions circulaires, conviviales et solidaires qui permettent de créer du lien. Donc typiquement, si vous prenez un composteur de proximité, ça permet de gérer ses déchets autrement, de les réduire, de valoriser ses déchets alimentaires, mais aussi de rencontrer ses voisins. Et c'est vrai aussi pour une bricothèque, c'est vrai pour une ressourcerie, c'est vrai pour plein de modes de gestion des déchets qui sont souvent les modes de l'économie sociale et solidaire.
Et tu parles de bricothèque, pardon, peut-être juste avant que tu nous parles de la mission plus en détail, mais je trouve intéressant, parce que là on rentre à fond dans le sujet, mais les bricothèques, composteurs, etc., est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces modes de gestion des déchets, de façon pragmatique? Qu'est-ce qu'une bricothèque? Qu'est-ce qu'un composteur collectif?
Un composteur collectif, c'est un équipement qu'on met en pied d'immeuble, au plus près des habitants, et qui permet d'apporter ces déchets alimentaires, le plus souvent les fruits, les légumes, et pas forcément les viandes, pour pas attirer les nuisibles, et qui, avec un mélange de matière sèche et de matière humide, de matière azotée, de matière carbonée, va permettre de donner ce qu'on appelle le compost, qui est le résultat de cette maturation, qui va ensuite servir à alimenter, à nourrir les sols, et souvent les sols et la végétation du quartier. Donc voilà, c'est une super solution en fait pour transformer nos déchets alimentaires en ressources. Et une bricothèque, ça peut être un local, un endroit où on va mettre à disposition des outils de bricolage souvent. Au sein du quartier pour que des habitants ou des utilisateurs d'une communauté quelconque puissent se prêter, enfin utiliser des outils en commun pour des travaux du tout venant et ne pas avoir à les acheter et c'est faire la promotion du partage, de l'économie de la fonctionnalité au service du coup de la préservation des ressources et du lien social.
Merci pour ces précisions. Du coup, par rapport à la mission de TerraVox, est-ce que tu avais des choses à ajouter par rapport à ce que tu as dit?
Du coup, oui, notre mission, c'est d'accompagner des communautés locales pour les aider à transformer leurs déchets en ressources pour mieux vivre la ville. Il y a vraiment cette idée que Dans l'économie circulaire, on dit que les déchets doivent être une ressource, mais une ressource pourquoi ? Chez TerraVox, c'est dans un objectif de mieux vivre son cadre de vie, d'améliorer son bien-être. Et donc ça passe par des solutions qui permettent de préserver les ressources, mais qui permettent aussi de créer du lien social et même de l'emploi. L'économie circulaire, c'est aussi des nouvelles activités économiques. Et l'idée, c'est de rendre ça accessible au plus grand nombre.
Et justement, sur ce moyen de mettre le déchet au service du lien social, je crois que vous travaillez avec un docteur en sciences comportementales sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Oui, on travaille avec un doctorant dont la thèse d'ailleurs est cofinancée par Citeo et la région Île-de-France. Et il fait sa thèse sur les liens entre gestion des déchets et attachement au lieu. Et c'est un sujet en fait très intéressant parce qu'on se rend compte que la gestion des déchets, dont le geste de tri fait partie, font partie d'un plus grand ensemble qu'on appelle les mécanismes de protection du lieu de vie, dont d'ailleurs le lien social fait partie aussi. Et en fait, plus on sait avec les recherches en psychologie sociale que plus on est attaché à son lieu de vie, plus on se sent inclus dans sa résidence, mais aussi de manière générale dans la société, plus on va mettre en place des mécanismes de protection du lieu de vie qui vont avoir des liens, avoir des bons liens avec ses voisins, avec son gardien, mais aussi veiller à la propreté, veiller aux gestes de tri, veiller aux consommations d'eau, aux consommations d'énergie. Donc c'est important de bien comprendre dans quelle mesure on peut favoriser l'attachement au lieu de vie quand on travaille notamment dans l'habitat social pour ensuite comprendre quels sont les impacts sur la préservation des ressources. Donc les déchets, oui, mais il y a aussi l'eau et l'énergie.
Et au-delà du coup de cet aspect social, la gestion des déchets et l'économie circulaire en général sont des domaines particulièrement pourvoyeurs d'emplois. Tu le disais tout à l'heure, Frédéric. Sarah, je me retourne vers toi. Du point de vue de ton expérience chez Circulaire, est-ce que tu as des chiffres à nous partager sur ce sujet ?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, contrairement à l'économie, à l'économie linéaire, du coup, où quand un produit arrive en fin de vie, on va le jeter. Avec l'économie circulaire, l'objectif, ça va être de créer différentes boucles qui vont avoir vocation à allonger au maximum la durée de vie de ces produits. Donc parmi ces boucles, on a le réemploi, la réutilisation et même le recyclage. Et ces boucles-là, en fait, elles vont être génératrices d'emplois. Et si on s'arrête sur les chiffres, c'est assez impressionnant. Selon le ministère de la Transition écologique, le développement des activités de réparation, de réutilisation ou de recyclage vont créer 25 fois plus d'emplois que la mise en décharge de ces déchets. On a aussi une étude du cabinet Auxilia Conseil qui nous dit qu'on a 32 000 emplois potentiels à l'horizon 2030 qui peuvent être créés grâce à l'économie circulaire. Et sur ces 32 000 emplois, 25 000 dans le secteur du BTP notamment, grâce au réemploi des matériaux dans le secteur de la construction. Donc si on regarde aussi à l'échelle de l'Europe, avec le pacte vert européen qui a vocation à accélérer le développement de l'économie circulaire à l'échelle de l'Europe, on voit qu'on a 700 000 emplois potentiels à l'horizon 2030 sur ces sujets. Donc on comprend bien à travers ces chiffres le vivier d'emplois assez important que représente l'économie circulaire, des emplois qui sont en plus pour la majorité locaux et non délocalisables, donc c'est une valeur ajoutée aussi très importante. Et je crois d'ailleurs que chez TerraVox, vous contribuez à former à ces nouveaux emplois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Frédéric ?
Oui, on y contribue. Alors, on a lancé tout récemment une formation qui s'appelle Valoriste Polyvalent, qu'on a monté avec des partenaires que je tiens à citer. Donc, il y a Villette Makers qui a imaginé la formation avec tout le parcours pédagogique. Et après, on a des prestataires formateurs par spécialité, parce que c'est une formation qui vise à initier et faire découvrir quatre métiers différents de l'économie circulaire. Donc il y a le métier d'éco-animateur, d'ambassadeur du tri, sur lequel nous on recrute et beaucoup de collectivités locales recrutent aussi. Le métier de guide composteur, qui est un métier aussi en plein devenir. Le métier d'agent de ressourcerie et le métier de valoriste des déchets du BTP. Tu en as un peu parlé, mais c'est le métier de dépose sélective, effectivement, puisque la loi prévoit maintenant que les chantiers vont devoir être déconstruits de manière propre et sélective pour ne pas jeter tous les déchets de chantier en enfouissement. Donc voilà, c'est une formation qu'on fait avec La Petite Roquette, par exemple, pour le métier d'agent de ressourcerie, Noria pour le métier de la déconstruction. Donc voilà, on lance ça à l'Académie du Climat. La première promotion a démarré en octobre, et c'est une promotion de 3 mois qui s'adresse à tous les publics. L'idée, c'est de voilà, c'est qu'il n'y a pas de prérequis, on peut venir sans qualification ou en étant en reconversion. Et voilà, notre ambition, c'est vraiment de donner accès aux opportunités offertes par l'économie circulaire, comme tu l'as bien dit. Il y a beaucoup de métiers qui vont se créer, il y a beaucoup de besoins, donc il faut commencer dès maintenant à former le plus grand nombre, et si possible que ça bénéficie à ceux qui n'ont pas forcément des parcours académiques ou professionnels faciles.
En plus de la formation, vous menez aussi des programmes de mobilisation d'envergure, notamment avec le département de la Seine-Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, on a des programmes de communauté circulaire, enfin qu'on appelle, on a des programmes effectivement de longue durée, de 1 à 3 ans, qu'on appelle Ma Communauté Circulaire, qu'on a initié d'ailleurs à Trappes dans 78, et aujourd'hui qu'on fait aussi en Seine-Saint-Denis, à Bobigny et à Bondy. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'économie circulaire soit un levier d'amélioration du quotidien et que ce soit une opportunité pour tous. Ce qui est frappant avec le département de la Seine-Saint-Denis, c'est que c'est un des départements avec les plus faibles taux de recyclage en France. Je crois que le taux de recyclage réel plafonne à 12%, alors qu'il devrait être 2 à 3 fois plus élevé si on prend la moyenne française. Et c'est aussi un des départements avec les plus forts taux de chômage. Et aussi un des départements avec les plus forts taux de jeunes. Donc on voit qu'il y a un double gaspillage. Il y a vraiment le gaspillage à la fois des matières produites par les villes et un gaspillage des talents de tous ces jeunes qui pourraient être en emploi et qui ne le sont pas. Donc quand on voit les chiffres d'emploi à venir de l'économie circulaire que tu as rappelé, on se dit vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Donc voilà, l'idée de la communauté circulaire, c'est d'aller... accompagner des communautés locales pour les aider à mettre en place des nouvelles solutions circulaires et solidaires autour de la gestion des déchets. Donc un meilleur dispositif de tri, mais aussi du compostage. Pourquoi pas aller vers le réemploi aussi avec des ressourceries, des bricothèques. L'idée, c'est vraiment de partir d'un diagnostic des usages et pratiques des habitants et de co-construire des solutions avec eux. Et en parallèle, on fait aussi des chantiers jeunes pour initier au métier de l'économie circulaire et essayer de flécher des jeunes vers les formations de Valoris polyvalent pour montrer que voilà, l'économie circulaire, c'est à la fois un levier pour améliorer le cadre de vie, à la fois un levier pour créer des emplois. Et c'est pour ça que ça fait sens, et c'est pour nous comme ça qu'on va pouvoir fédérer le maximum de monde autour de cette transition.
Ouais, c'est vraiment génial de voir à travers les exemples que tu montres qu'en fait... La problématique de la gestion des déchets, en fait, elle peut être un vrai moteur, levier d'inclusion sociale. Et c'est, enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé aussi quand tu nous as parlé de ta solution. J'ai trouvé ça vraiment génial. Et est-ce que tu aurais des chiffres à nous partager sur l'impact du coup de tes actions sur le terrain ?
Alors oui, depuis 2018, on a sensibilisé plus de 200 000 personnes sur toute l'Île-de-France. Ça notamment dans le cadre d'un contrat qu'on a avec le SICTOM Paris, le syndicat des traitements des déchets de la ville de Paris. C'est notre plus gros client, donc c'est le client pour lequel on fait le plus de campagnes de sensibilisation. Et puis sur les mesures d'impact qu'on a fait, notamment avec l'accompagnement de Citeo sur le Circular Challenge, on a vu que on était suite à nos opérations, on multipliait par 2 le taux d'adhésion aux gestes de tri. Donc c'est une évaluation d'impact qu'on a pu faire cette année. Et on voit aussi que cet impact est renforcé quand les dispositifs de collecte sont de bonne qualité. Donc voilà, ça nous a appris plein de choses sur la manière d'embarquer les gens sur le tri.
Je me retourne vers toi du coup, Anne-Sophie. Frédéric a été lauréat du Circular Challenge donc de Citeo cette année. Est-ce que tu peux nous rappeler l'objectif de ce programme que vous avez initié il y a 6 ans et ce qui vous a convaincu aussi dans le projet porté par Frédéric ?
Alors oui, tout à fait. Le programme lancé par Citeo il y a 6 ans, donc Circular Challenge, était au départ un concours d'innovation de start-up, de l'économie circulaire, des emballages ménagers et des papiers, qu'on a transformé l'année dernière en accélérateur de projets à impact, bien sûr toujours de l'économie circulaire sur nos filières. Peut-être pour rappeler rapidement, Citeo, c'est une société à mission qui a pour mission vraiment d'accompagner les entreprises à réduire l'impact environnemental de leurs emballages et de leurs papiers. La spécificité, c'est que c'est une entreprise de droit privé avec une mission d'intérêt général et qu'on travaille à la fois avec des acteurs privés, donc tous les metteurs en marché d'emballages, aussi bien industriels que distributeurs, et de l'autre côté avec les collectivités locales, les opérateurs, les recycleurs, et on a aussi une mission de mobilisation des citoyens sur le geste de tri, et donc on travaille beaucoup sur ces sujets de sensibilisation en lien bien sûr avec les collectivités et les territoires, d'où notre intérêt évidemment pour TerraVox. Circular Challenge, donc aujourd'hui c'est un accélérateur de solutions avec un programme d'accompagnement d'un an dans lequel est aujourd'hui Frédéric cette année. Et qui a pour objectif vraiment d'accompagner tous ces porteurs de projets à passer à l'échelle, à industrialiser leurs solutions, parce qu'on sait vraiment que c'est plus compliqué quand on veut faire de l'économie circulaire de faire ce passage à l'échelle. Ça demande vraiment des changements, j'allais dire systémiques, mais voilà, des changements vraiment globaux sur tous les leviers. Et donc c'est notre rôle chez Citeo d'accompagner finalement tous les porteurs de projets, qu'ils soient start-up, associations, PME, mais aussi entreprises qui sont engagées dans le changement et qui veulent vraiment trouver des solutions pour remplir leurs objectifs, atteindre la neutralité carbone, etc. Et pour revenir à TerraVox, donc lauréat cette année qui fait partie de la promotion, donc on accompagne 8 startups chaque année. En tout, on a dû accompagner une 60aine de startups au cours des 6 dernières années sur plein de sujets différents. Et ça, je pense que c'est important à avoir en tête, c'est vraiment la diversité des acteurs qu'on accompagne, parce qu'on souhaite montrer que l'innovation dans l'économie circulaire, c'est pas seulement technique, technologique, digitale, bien sûr il y en a, mais c'est aussi de l'innovation d'usage et de l'innovation sociale, et je pense qu'on le voit très bien avec l'exemple de Frédéric. Et c'est ça en fait qui a été déterminant pour le jury l'année dernière, c'est de voir que chez TerraVox, ils avaient vraiment développé une expertise particulière et sur les changements de comportement et sur l'ancrage local et sur le lien entre amélioration de la gestion des déchets pour le mieux vivre, et donc vraiment replacer ce sujet déchets dans un contexte beaucoup plus large, qui est celui de comment je vis au quotidien dans mon environnement, comment je construis une ville durable et comment je recrée aussi du lien avec les autres. Et donc pour toutes ces raisons, finalement, voilà, c'était assez naturel d'avoir TerraVox au sein de la promotion cette année.
Ok, et Frédéric, du coup, je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire, Anne-Sophie, sur l'aspect expertise que vous avez perçu chez TerraVox. Cette expertise, elle n'est pas tombée du ciel. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en fait comment, avant de créer TerraVox, tu étais déjà expert et sensibilisé à ces sujets-là?
Oui, cette expertise, elle n'est pas tombée du ciel. Ensuite, elle vient de l'histoire de TerraVox. Et en fait, TerraVox, à l'origine de TerraVox, il y a d'abord une association, en fait, qui s'appelle l'association IGREN, donc ça s'écrit E-GREN. Et c'est un mouvement d'éducation populaire qui est né il y a 15 ans à Trappes, dans les Yvelines, et qui a essaimé aujourd'hui dans 8 régions en France et qui a plus d'une cinquantaine de salariés. Et qui a toujours œuvré pour rapprocher les enjeux de protection de l'environnement, mais aussi de justice sociale. Et donc c'est une association d'éducation populaire qui intervient partout, mais beaucoup aussi dans les quartiers populaires. Et du coup, donc moi, pour la petite histoire, j'étais dans le conseil, dans le secteur de l'énergie, avant de avant d'arriver chez TerraVox, et j'étais aussi bénévole dirigeant au conseil d'administration de l'association Ygraine. C'était voilà, mon engagement bénévole, et j'ai fait partie du groupe d'administrateurs qui ont pris la décision de créer TerraVox pour justement proposer une solution qui fasse de l'économie circulaire une opportunité pour tous les publics. Donc voilà, et c'est vrai que on avait déjà la connaissance on avait déjà des billes sur les problématiques rencontrées dans les zones urbaines denses, ces problématiques liées à l'appropriation du cadre de vie, la manière de travailler avec les associations locales, avec les bailleurs sociaux, et c'est ce qui nous a amené à assez vite essayer d'identifier des solutions qui vont à la fois répondre à un enjeu de préservation des ressources et aussi à un enjeu de lien social et de développement économique.
Et c'est intéressant parce que ça fait écho aussi au témoignage qu'on a eu dans le dernier épisode des Circular Talks, celui de Shu Zhang, qui est la créatrice de PandoBac, qui elle aussi en fait a créé PandoBac de par ses expériences passées dans la restauration, etc. C'est souvent quelque chose qu'on dit, c'est la voie professionnelle, c'est une succession d'expériences, de constats, etc. Mais vous l'illustrez parfaitement. Vous êtes là où vous êtes aujourd'hui parce que clairement vous avez eu des expériences passées qui vous ont permis d'engranger des compétences, de faire des constats et qui à un moment ont été moteurs pour passer à l'action et pour entreprendre. Je trouvais intéressant de le souligner.
Tout à fait.
Et je me retourne vers toi, Anne-Sophie. À l'écoute de tout ce qu'on se dit, on comprend bien du coup tout l'intérêt d'intégrer une start-up comme TerraVox dans le Circular Challenge. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est matérialisé concrètement l'accompagnement que vous leur avez apporté avec Citeo?
Oui, alors c'est un programme d'accompagnement d'un an qui comporte des briques assez classiques et d'autres peut-être plus différenciantes. Il y a bien sûr du coaching. Chaque start-up est accompagnée par des coachs de chez Citeo, puisque c'est aussi pour nous l'occasion de mener un vrai projet d'entreprise, un vrai projet transverse et d'impliquer finalement l'ensemble des métiers et les collaborateurs de Citeo. Chaque start-up a un ou deux coachs. Ils font des sessions régulières sur toutes les thématiques, bien sûr, liées à l'économie circulaire. On a aussi beaucoup d'occasions de faire de la mise en relation avec tout notre écosystème de parties prenantes, de clients, d'opérateurs, de collectivités. Et puis, en fait, on fait avec chacune de ces startups un vrai projet sur mesure durant l'année pour les accompagner sur deux thématiques spécifiques que sont le modèle économique, vraiment sur comment est-ce que je rends mon modèle économique plus circulaire, et sur la mesure de l'impact. Et Frédéric en a parlé un petit peu avec TerraVox, c'est vraiment ce sur quoi on s'est focalisé cette année, comment en fait prouver l'efficacité des opérations de sensibilisation et de mobilisation. On sait que c'est pas toujours évident, derrière il y a de l'humain, les déterminants sont multifactoriels, on va dire, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, on a travaillé en mode collectif avec TerraVox et l'équipe pour les accompagner là-dessus, sur ce sujet de la mesure de l'impact, qui est pour nous vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, parce que on se rend compte que c'est encore une fois beaucoup plus compliqué pour ceux qui font de l'économie circulaire d'arriver à trouver des indicateurs, de pouvoir les suivre et ensuite de valoriser finalement leur travail, et derrière d'avoir accès à des levées de fonds, d'avoir accès à des nouveaux partenaires, etc. Et donc pour nous c'est vraiment un aspect vraiment essentiel au début du développement des projets, comme le développement business, le développement d'une stratégie, on va dire, d'impact avec un choix d'indicateurs, si possible assez réduit pour pouvoir ensuite les suivre suivre la trajectoire. Et c'est ce que fait TerraVox. Et du coup, Frédéric nous a partagé déjà quelques résultats. Donc on voit que ça porte ses fruits.
Anne-Sophie, donc tu viens de décrire l'accompagnement que vous avez apporté à TerraVox. De ton côté, Frédéric, du point de vue entrepreneur, comment t'as perçu du coup cet accompagnement? Qu'est-ce que tu en ressors?
Ah, c'était un accompagnement très riche. Enfin, je tiens à le souligner parce que c'est pas le seul incubateur qu'on fait. Hein. Il y a des incubateurs sur l'innovation sociale ou sur la ville durable. Il y en a pas mal. Mais chez Citeo, il y avait une vraie expertise sur le sujet du tri, de la collecte, mais aussi il y avait une vraie expertise sur le changement d'échelle, le business model, la mesure d'impact. Et ça, c'était assez surprenant parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi autant d'expertise sur les enjeux de l'entrepreneuriat. Donc c'était chouette. On a eu un mentor aussi, Laurent Dalibon, qui est une super personne qui nous apporte beaucoup également. En plus des coachs de Fanette et Violette au quotidien.
Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pardon, je te coupe, mais est-ce que tu peux juste nous préciser qui est Laurent Dalibon ?
Laurent Dalibon, bah, c'est quelqu'un qui a une longue carrière dans le monde de l'économie circulaire. Qui est passé par plusieurs responsabilités chez Citeo à l'époque où ça s'appelait Eco-Emballage, chez Sulo, aujourd'hui chez Cortexia France, qui est une start-up qui agit sur la propreté. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'écosystème et qui connaît très bien les enjeux liés à l'économie circulaire.
À nos côtés d'ailleurs, depuis longtemps, et qui a aussi déjà accompagné d'autres finalistes de Circular Challenge. Donc voilà, on a un réseau aussi de fidèles.
On a beaucoup parlé pendant cet épisode de la dimension sociale de ta solution, Frédéric. Anne-Sophie, pourquoi c'était important pour vous chez Citeo d'accélérer un projet avec cette forte dimension sociale justement ?
Pour nous, c'est hyper important de montrer que innover dans l'économie circulaire, c'est vraiment créer de la valeur économique, environnementale et sociale, que les trois sont liés et que, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas d'un côté les innovations techniques ou matériaux et de l'autre l'innovation sociale. On essaye vraiment de croiser les deux et donc de montrer que c'est vraiment par une approche globale et on le voit en intégrant notamment l'humain derrière qu'on va pouvoir faire changer les choses, accélérer la transition. Et puis Frédéric en a parlé, on a bien sûr le sujet de l'emploi et tu l'as mentionné aussi. Je pense que c'est une forte dimension de la transition vers l'économie circulaire. Chez Citeo, on le sait depuis longtemps puisque toute l'économie qu'on accompagne, elle est vraiment ancrée sur les territoires. On travaille avec plus de 800 collectivités locales en France et on sait combien ces emplois-là sont importants. Et comme l'a dit Frédéric, ici on a tout un nouveau champ avec des nouveaux emplois et donc ça va vraiment faire partie de l'équation. Donc c'est ça pour nous qui est important à mettre en avant.
Et tu parlais aussi tout à l'heure de la diversité finalement des startups que vous accompagnez. En quoi cette diversité, elle vient nourrir peut-être chaque startup ? Est-ce qu'il y a des connexions qui se créent ?
Oui, tout à fait. Donc Circular Challenge, c'est vraiment un programme qui vise à nourrir cette diversité. Donc on essaye chaque année d'avoir vraiment de la start-up la plus tech à la plus sociale, du réemploi, des internationaux aussi qui veulent venir sur le marché français, des gens qui innovent sur les matériaux, etc. Et ça, c'est vraiment pour favoriser les collaborations aussi entre les start-up. Et chaque année, on a le plaisir de voir que ça fonctionne et que loin d'être concurrent ou d'être vraiment en compétition, il y a vraiment cette envie de coopérer et de s'entraider aussi, parce que finalement, ils ne sont pas tous sur les mêmes sujets, mais ils font face parfois aux mêmes problématiques. Et donc, bon, Frédéric en parlera mieux que moi, mais il travaille avec d'autres finalistes et d'autres lauréats de Circular Challenge.
Et donc, Frédéric, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple ou deux, peut-être, de startups avec lesquelles tu travailles et quels sont les sujets sur lesquels vous collaborez ?
Oui, aujourd'hui on travaille depuis un moment maintenant, par exemple avec Trizy, qui est une startup qui a démarré avec un chatbot pour communiquer différemment sur les déchets auprès des usagers des collectivités locales. Et aujourd'hui ils lancent leur propre application. Donc ils ont vraiment une expertise autour de la communication digitale. Et nous, ça nous permet d'être présent sur toute la chaîne de valeur de l'accompagnement au changement, parce qu'on avait cette capacité à être présent physiquement auprès des usagers sur le territoire, Mais avec Trizy, on a la capacité maintenant à la fois d'être présent physiquement et à la fois de communiquer largement auprès de tous les usagers de la collectivité sur nos programmes, sur nos actions et sur les opportunités qu'offre l'économie circulaire. Donc ça, c'est une première super collaboration qu'on est en train d'approfondir avec Trizy. Et puis récemment, on a remporté un nouveau marché pour le Sictum Paris avec une autre start-up de la promotion qui s'appelle Unico, qui propose le Waze des déchets, comme ils disent. Et on s'est rendu compte qu'on avait des problématiques similaires. Parce que comme eux équipent les collecteurs avec une solution digitale pour mieux les guider, en fait, on s'est rendu compte que nous, on avait le même besoin. Parce qu'on a des éco-animateurs, des ambassadeurs du tri qui, quand ils doivent faire des campagnes de sensibilisation sur toute une ville, bah, ils ont en 3 mois 30 000 adresses à parcourir. Et du coup, il y avait besoin d'optimiser le parcours de nos éco-animateurs, d'optimiser la manière dont ils récoltent les données. Parce qu'après chaque sensibilisation, ils recueillent des données de pratique et d'usage auprès des citoyens. Et du coup, on va s'associer avec Unico pour l'outillage digital de nos équipes.
Ok, et donc tu parles du Sictum depuis tout à l'heure, tu précisais que c'était le syndicat, est-ce que tu peux juste nous repréciser, donc c'est le syndicat mixte français?
C'est le syndicat de traitement des déchets d'Île-de-France, c'est le plus gros syndicat de traitement des déchets d'Europe, il y a 6 millions d'habitants qui sont couverts par les services du Sictum, surtout l'incinération et le tri, très peu d'enfouissements en Île-de-France, enfin sur le territoire du Sictum. Donc voilà, il y a 85 communes adhérentes là l'ambition du Sictum, c'est d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin sur le tri et la prévention des déchets pour accélérer la transition vers l'économie circulaire, mais aussi pour se conformer à leurs propres objectifs et enjeux. Il y a notamment le centre d'incinération d'Ivry qui va avoir sa capacité de traitement divisée par 2 d'ici 2024. Et du coup, il va falloir amener les Franciliens à produire moins d'ordures ménagères. Donc il va falloir utiliser tous les leviers de la prévention et de la sensibilisation pour ça.
Et donc aujourd'hui, vous êtes une trentaine chez TerraVox. Je crois que vous recrutez. Est-ce que tu peux nous dire quel type de métier on retrouve chez vous et quel profil vous recherchez ?
Alors, on recrute, oui, on recrute des éco-animateurs et des éco-animatrices. Donc, c'est un métier, enfin, c'est un job accessible avec peu d'expérience professionnelle. Voilà, c'est un métier qui est assez ouvert. Nous, on forme les gens à ce métier-là. Il suffit d'avoir envie de parler, d'engager le dialogue avec les usagers sur la question des déchets. Et puis après, on recrute bien sûr des métiers de chef de projet, donc qui visent à, dont là l'enjeu est de bien connaître, de bien comprendre la situation dans laquelle se trouvent les collectivités locales, les bailleurs sociaux, de pouvoir poser des bons diagnostics sur ce qui pose problème en matière de gestion locale des déchets et de monter les bonnes opérations pour répondre à ces enjeux. Et on recrute aussi des niveaux de direction des opérations, puisqu'on est de plus en plus nombreux. Et on a besoin de se structurer pour grandir sereinement.
Et tu nous confiais aussi en préparant l'épisode que donc vous alliez devenir entreprise d'insertion dans le cadre donc, du marché que vous avez conclu avec le Sictum. Est-ce que ça, c'est lié à l'appel à projet que vous avez gagné ou est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
C'est une ambition qu'on avait depuis longtemps d'aller vers encore davantage d'inclusion sociale. Il se trouve que c'était aussi une clause du marché du Sictum. Donc aujourd'hui, on passe par des partenaires externes pour nous mettre à disposition des salariés en insertion comme Ares ou comme Harder, par exemple, qui sont des structures spécialisées. Mais l'idée derrière, c'était effectivement de donner accès à des salariés en situation d'insertion, à des métiers qui font appel avant tout à des savoir-être, qui sont des vrais freins à l'emploi. Parce que si vous prenez le métier de la sensibilisation, il faut savoir convaincre, il faut savoir poser des arguments, il faut savoir être à l'écoute des usagers, répondre à des questions. Et on retrouve plein de métiers en insertion qui font d'abord appel à des savoir-faire, par exemple la réparation, la déconstruction, etc. Mais en fait, les premiers freins à l'emploi, ce sont les savoir-être. Et d'abord la communication verbale. Donc on pense qu'avec le métier d'éco-animateur, il y a une vraie occasion d'insérer plus de gens dans l'emploi.
Ok, très clair. Je me retourne vers toi, du coup, Anne-Sophie, maintenant, pour ajouter un mot sur le Circular Challenge. On est en janvier et donc la nouvelle promotion a été annoncée. Quelles seront les prochaines étapes ?
Oui, tout à fait. Donc, on a le plaisir de commencer l'année avec une nouvelle promotion de projet lauréat qui vont être accompagnés toute l'année avec, comme je le disais tout à l'heure, tout un ensemble du coup de briques d'accompagnement qu'on va essayer bien sûr de renforcer, d'améliorer par rapport à ce qu'on a fait l'année passée, mais avec toujours les mêmes fondamentaux, avec du coaching, du mentoring, un petit peu de financement, aussi un accès à un lieu d'innovation avec lequel on est en partenariat qui s'appelle le Raise Lab, qui est en fait une structure dans Paris qui accueille des startups et des grands groupes. Et on est partenaire fondateur Citeo, et donc les startups et plus largement d'ailleurs l'ensemble des projets d'innovation sur lesquels on travaille ont accès à ce lieu durant l'année, et dans le 11e. Et puis on a aussi régulièrement des journées d'accélération pour retrouver, on le disait tout à l'heure, le collectif et puis avancer ensemble sur certaines problématiques. Cette année, il y aura aussi sans doute plusieurs de nos lauréats qui vont préparer des levées de fonds, et donc ça fera aussi partie de l'accompagnement qu'on va leur proposer.
Ok, et j'ai maintenant peut-être une question un peu plus personnelle. En tant que responsable innovation chez Citeo, tu manages une équipe de 3 personnes. Et donc, à ce titre, quelles sont tes motivations et toi, quelles sont tes sources de satisfaction ?
Bah, c'est vraiment de travailler avec des gens comme Frédéric, d'être au contact des entrepreneurs. Je pense que c'est ça qui motive toute l'équipe aujourd'hui. Et donc, dans l'équipe Foucault, Carmen, Thibault, et puis le reste de l'équipe innovation et au-delà, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était vraiment un projet transverse. Et donc, on a une quarantaine de collaborateurs qui sont engagés à des degrés divers. Et donc, c'est vraiment ça, c'est d'être au plus près des on les appelle les acteurs du changement, ceux qui essaye de faire avancer le réel concrètement. Et moi, voilà, c'est ça qui me motive vraiment aujourd'hui et tous les jours, de pouvoir contribuer à résoudre une partie des problèmes environnementaux et sociaux.
Et toi, Frédéric, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Qu'est-ce qui te motive ?
Alors, ce qui me motive, c'est vraiment de me saisir du sujet des déchets pour travailler sur des enjeux systémiques. Tu as utilisé ce mot tout à l'heure, hein, Sophie, mais c'est vraiment un excellent prétexte pour travailler sur des enjeux d'inclusion sociale, économique, du lien social, de l'amélioration du cadre de vie. Et du coup, on est obligé de faire appel à des expertises diverses et variées, parce que ce sont des problèmes complexes et multifactoriels. Chez Terrabox, on a réussi à mobiliser, on a un doctorant en sciences comportementales, on a des designers, on a des chefs de projet avec une expertise plutôt d'innovation sociale, des gens qui sont experts de la formation professionnelle, de la médiation. On monte vraiment des programmes qui sont sur mesure et qui sont multidisciplinaires pour s'attaquer à des un vrai enjeu qui est celui du mieux vivre la ville. Ça passe par la préservation des ressources, ça passe par l'inclusion sociale, ça passe par le lien social aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment enthousiasmant, même si ce sont des problèmes très complexes et qu'on n'est pas encore arrivé au bout du chemin. Mais c'est enthousiasmant de s'y attaquer.
Et Frédéric, du coup, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les perspectives côté Terrabox ?
Oui, alors aujourd'hui, on a accueilli encore des nouveaux collaborateurs, donc on est une cinquantaine, et notre enjeu, c'est vraiment de se structurer pour réussir à bien gérer les opérations que nous avons dans ce volume en Île-de-France, sachant qu'il y en a d'autres à venir sur des territoires comme la métropole de Bordeaux, où nous avons gagné un appel à projet de 3 ans. Et nous avons aussi gagné d'autres appels à projets dans d'autres régions dont je pourrais parler plus tard. Voilà, notre idée, c'est vraiment de structurer nos process pour capable d'être de délivrer une bonne qualité de service sur l'Île-de-France, mais aussi sur les autres villes à venir. Alors on prépare un SMH dans de bonnes conditions aujourd'hui et pour les mois qui viennent.
Sarah, selon toi, quels seraient les points clés à retenir de l'échange qu'on vient d'avoir avec Anne-Sophie et Frédéric ?
Alors, au-delà des points clés, déjà, je trouve que c'était un échange vraiment particulièrement intéressant et très, très riche d'enseignements. Mais si je devais retenir 3 points, je dirais que le premier, c'est d'abord à quel point l'économie circulaire est un formidable levier d'emploi, un secteur qui est vraiment pourvoyeur d'emploi. Et on le voit à différents niveaux, avec la création de nouveaux métiers, mais aussi l'émergence de nouvelles compétences. Et donc, ça laisse vraiment entrevoir des belles perspectives dans un contexte économique un petit peu compliqué. Le deuxième point, c'est à quel point la gestion des déchets aussi peut être un levier, un facteur d'inclusion sociale. Et c'est quelque chose auquel on n'aurait pas pensé spontanément. Le sujet des déchets, c'est un peu un sujet tabou. Les déchets, c'est sale, on ne veut pas trop en parler, on ne veut pas les voir. Et en fait, quand on s'y intéresse, on se rend compte à quel point ils peuvent avoir des vertus. Et nous, on le dit aussi dans l'économie circulaire, les déchets, ce sont des ressources avant tout. Et le dernier point, c'est en fait l'importance aussi de partager des belles histoires, des initiatives comme la tienne qui rendent compte que finalement l'économie circulaire, elle est à portée de main, elle a des externalités positives énormes, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue social. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui autour de cette table, ce que vous faites avec Citeo, ce que tu fais toi aussi Alexia, ça contribue à mettre la lumière sur ces réussites et à du coup accélérer le mouvement pour permettre de vivre dans un monde du coup qui respecte les limites planétaires et les humains.
On arrive donc à la fin de cet épisode. Anne-Sophie, Frédéric, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter ?
Écoute, la conclusion de Sarah était parfaite. Peut-être pour dire que là, on voit bien, comme tu as dit, l'économie circulaire du quotidien. Et c'est aussi ce qu'on dit. On peut parfois penser que c'est un concept, même si maintenant, tout le monde en parle de plus en plus. Mais en fait, ça s'inscrit vraiment dans le quotidien des gens de plus en plus. Et bien sûr, Frédéric y contribue fortement. Donc, bravo à lui. Et puis, merci à vous.
Merci.
Merci à vous trois. L'économie circulaire, c'est un formidable levier d'amélioration du quotidien. Et pour ça, ça nécessite, comme tu disais, qu'on change de regard sur les déchets. Effectivement, les déchets, c'est d'abord un sujet tabou, c'est un sujet sale. Les déchets, c'est ce qui est collecté à 6h du matin quand tout le monde dort, et c'est ce qui est envoyé dans des centres de tri ou des incinérateurs que personne n'a jamais vu, qui sont loin des villes, qu'on ne connaît pas, et donc ça disparaît un peu par magie. Il est vraiment temps d'inventer de nouveaux récits autour de la question des déchets, de la circularité, et du coup de les regarder autrement pour en tirer toute la richesse.
Super conclusion. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce 6e épisode des Circular Talks. Merci Sarah.
Merci à tous les trois.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. À bientôt pour le prochain épisode.